Donc, comme on l'a lu, aujourd'hui nous sommes dans la suite de la semaine passée, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Si on vous disait de définir l'Église avec un grand E, donc tout le corps de tous les chrétiens qui sont sauvés, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit en premier? Réfléchissez, mais ne parlons pas. Certains diraient peut-être l'Église, c'est tous ceux qui aiment Jésus, et ce serait vrai. D'autres disaient peut-être l'Église, c'est ceux qui essayent d'obéir à Jésus, donc qui l'ont comme son Seigneur. Et c'est vrai. Ou alors on essaye de plaire à Dieu. Et c'est ça l'Église, toutes ces personnes-là. Mais dans la lettre de Paul aux Éphésiens, Dieu nous donne une définition de ce qu'est l'Église. La semaine passée, on a vu avec elle que c'est un groupe de femmes, d'hommes et de femmes, que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est que Dieu nous a choisis avant la création du monde. Et on a vu aussi que c'est un groupe de personnes que Dieu a bénies de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On a vu que c'est un groupe d'hommes et de femmes que Dieu a pardonné. Il n'y a pas de péché. Si un jour on apparaît devant Dieu, il ne va rien nous reprocher. On a enfin vu, on a aussi vu, entre autres, que c'est un groupe d'hommes et de femmes que Dieu a adopté. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Ce ne sont pas les mots. Nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, dans le texte qu'on vient de lire, l'apôtre Paul va plus loin. Et le but de ce texte, s'il faut retenir une seule chose, le but de ce texte est de nous montrer l'ampleur de l'œuvre de Dieu pour nous. Quand il nous a adoptés comme ses enfants, quelle est l'ampleur de cette œuvre? Et on le voit dans ce texte. Et on le voit direct, si vous avez regardé vos Bibles ouvertes, et vous voyez, dès les premiers mots, l'apôtre Paul nous montre l'ampleur. C'est que devenir enfant de Dieu, c'est passer de la mort à la vie. C'est ça l'ampleur. Imaginez si vous allez chez le médecin, on vous diagnostique une maladie grave. Ça peut être très très grave, mais il n'y a rien de plus grave que être mort. Et l'apôtre Paul veut nous montrer à quel point on était loin, à quel point l'œuvre de Dieu est grande pour faire qu'un homme devienne son enfant, c'est qu'il passe de la mort à la vie. Dans les évangiles, souvent à quelques occasions, Jésus a utilisé sa puissance pour ressusciter les morts. On voit ça avec le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jairus ou Lazare. Et même Jésus lui-même, on dit que c'est toute la Trinité qui était impliquée dans sa résurrection. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et on dit que c'est une puissance qui a ressuscité Jésus d'entre nous. La même puissance que Dieu a déployée pour ressusciter les morts. C'est cette puissance-là qui fait que nous passons de la mort à la vie et que nous devenons enfants de Dieu. Donc j'ai appelé ce passage de la mort à la vie, pour des raisons évidentes. Donc on peut résumer ce passage en trois phrases. 1. Nous étions morts, Dieu nous a ramenés à la vie et il l'a fait par sa grâce. Donc d'abord nous étions morts. Je trouve que parfois on peut lire la Bible comme on lit ou bien comme on écoute les publicités des médicaments, de certaines pilules. Des fois on dit, voici cette pilule qui va vous donner plein d'énergie. Après il y a une petite voix qui dit, oui mais faites attention, ça peut avoir des effets secondaires. Si vous avez ça, ça peut briser. Mais ça va vous donner plein d'énergie. Et des fois je trouve que dans la Bible on peut aussi lire les bonnes choses. Dieu nous a bénis. Et puis vous étiez morts à cause de vos péchés. Oui mais Dieu nous a bénis. Mais je trouve que parfois il faut s'arrêter sur les mauvaises nouvelles. Parce que les mauvaises nouvelles qu'il y a dans la Bible nous permettent d'apprécier les bonnes nouvelles. Donc d'abord, nous étions morts. À quel point est-ce qu'on était éloigné de Dieu? On était au maximum qu'on puisse être éloigné. Plus éloigné que nous l'étions, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire mort? Puisqu'on n'est pas littéralement mort. Nous, si on, d'un point de vue humain, on dit que quelqu'un est mort, c'est qu'il a arrêté de respirer. Mais quand l'apôtre Paul dit vous étiez mort, c'est pas dans ce sens littéral là. On n'était pas des cadavres et puis des cadavres au sens littéral. Je vais nous proposer trois sens possibles qu'on peut déduire sur la base de l'ensemble de la parole de Dieu. Il peut y avoir d'autres choses, mais je nous propose trois. D'abord, on était mort dans le sens où on était inexistant dans ce que Dieu considère. Je prends un exemple. Il y a un exemple que j'ai vu. Un homme et son père. Et son père avait eu une attitude très grave vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa famille. Un jour, son fils lui écrit une lettre. Et dans la lettre, il avait juste écrit « Je n'ai plus de père ». Et jusqu'aujourd'hui, il se comporte comme si son père était mort. Et personne ne peut le faire revenir à la raison. Quand on lui dit que son père était malade, il dit « Et alors ?» Si on lui dit que son père a quelque chose, peu importe pour lui, il est dans un état de haine profond. Alors, c'est pas un modèle. Je veux dire, souvent dans le sens, même dans la vie courante, on peut considérer que quelqu'un n'existe pas ou bien se comporter comme si la personne n'existe pas. Et il y a des situations comme ça dans la Bible, où Dieu ne semble ne pas considérer certaines personnes. J'ai pensé par exemple dans Matthieu 28, à la résurrection de Jésus, il y a les femmes qui étaient les disciples de Jésus. Elles viennent au tombeau, et puis là, il y a un ange apparaît, il y a les femmes, mais il y a aussi les gardes. Et le garde se tourne vers les femmes et dit, pour vous, n'ayez pas peur. Et qu'est-ce que l'ange dit aux soldats romains? Rien. Ou alors sur la croix, au milieu de deux brigands, quand Jésus est au milieu de deux brigands, il dit à l'un, ce soir, nous serons ensemble au paradis. Imaginez, Jésus vous dit, rendez-vous au paradis ce soir. Bon, ça veut dire que vous allez mourir, mais... Mais il dit à un brigand, ce soir, nous serons ensemble au paradis. Qu'est-ce qu'il dit à l'autre? Rien. Ou Lazare et l'homme riche. Est-ce que vous connaissez le nom de l'homme riche? Dieu considère certaines personnes. Et certaines personnes sont comme mortes. Avant Jésus, dans ce que Dieu considère, c'est comme si vous n'existiez pas. Vous êtes comme mort pour ce que Dieu considère. Certains hommes vivent sur la terre, sont riches, sont considérés par les hommes. Mais quand Dieu regarde les hommes qu'il considère, ces hommes-là n'ont pas de valeur. Ils ne font pas partie de ce que Dieu considère. Ils sont comme morts. Et nous tous, avant de devenir enfants de Dieu, nous étions dans ce temps. Mort, on peut aussi voir comme le sens d'une mort future certaine. J'ai pensé à l'illustration, comme illustration, pensez à un congélateur. Si vous débranchez un congélateur dans lequel il y a déjà de la glace, quand vous débranchez, est-ce que la glace disparaît? Non. Au bout d'une heure, il y aura peut-être encore de la glace. Mais au bout d'une semaine, il y aura peut-être plus de glace. C'est déjà débranché, mais il y a encore quelque chose de la glace. De la même manière, la Bible dit que les hommes, le fil de leur vie est coupé. On est comme des appareils débranchés. Mais si tu débranches quelque chose d'électrique, ça vit quelque temps encore. Dans Job, verset 4, si vous avez... Vous n'êtes pas obligé de tourner, mais dans Job, verset 4, 20 à 21... Il dit, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Quand Adam a péché dans le jardin, Dieu lui avait dit avant ça, si tu manges ce fruit, tu mourras, c'est certain. Mais Adam est mort à quel âge? Plus de 900 ans. C'est comme si Dieu avait déjà débranché sa vie, mais il y avait encore quelque chose. Et puis après le déluge, la vie des hommes l'espérance de vie est passée à 200 ans, puis 120 ans. Et aujourd'hui, à 120 ans, on sait que c'est compliqué. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et devant l'éternité, devant les millions et des millions d'années, vivre 120 ans, c'est insignifiant. Mais le sens le plus probable de ce texte, c'est la mort spirituelle. Nous sommes morts spirituellement. Avant Jésus et en dehors de Jésus, tous les hommes sont nés dans une mort, dans un état de mort spirituelle. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de s'élever à Dieu, de s'élever vers Dieu. Dans Romains 3, la parole de Dieu nous dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Par nature, les hommes naissent morts spirituellement. Vous allez peut-être me dire, oui, mais moi j'aime Jésus, j'ai envie de venir à lui. Oui, c'est vrai, mais c'est parce que Dieu vous a ramené à la vie. Dans notre état normal, nous ne pouvons pas venir à lui. C'est pour ça que certains viennent et que d'autres ne viennent pas. C'est parce que c'est Dieu qui nous ramène à la vie. Ils n'en ont pas la capacité. Ils sont spirituellement insensibles. Ils sont morts. Peut-être ça vous est déjà arrivé que des personnes vous disent, waouh, je vois ce que Dieu a fait dans ta vie, waouh, ça c'est vraiment Dieu qui l'a fait. Mais il ne croit pas en Dieu. Il peut reconnaître que Dieu, il y a même des gens qui disent, non, il y a une force qui a tout créé, mais il ne peut pas venir à Dieu. Parce que spirituellement, il n'a pas la capacité de déduire, ok, il y a un créateur, il faut que je l'adore. Nous étions morts spirituellement et nous n'étions pas capables de venir à Dieu. Le verset 1 dit, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois. Nous sommes morts à cause de nos péchés. Il a fallu un seul péché à Adam pour être coupé de la présence de Dieu. Dieu, c'est un être absolument saint, absolument pur. Un peu de désobéissance, un peu de péché, un peu de perversion en nous, on ne peut pas être en communion avec lui. Dieu est absolument saint. Il a fallu un seul péché à Adam pour être coupé de la communion parfaite avec Dieu, qui est la source de la vie. On a imaginé le nombre de péchés que nous avons commis. Nous étions morts par nos fautes, aussi éloignés de Dieu qu'on peut l'être, incapables de revenir à lui. Nous étions morts, vous étiez morts, toujours dans le verset 1, à cause de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Malheureusement, plutôt que de revenir à Dieu, les êtres humains ont normalisé la vie sans Dieu. Nous vivons dans un système spirituel dans lequel nous baignons dans le péché. Et la façon de vivre du monde est naturellement opposée à tout ce que Dieu aime. Et l'apôtre Paul, non seulement le système du monde fait qu'on entretient cet état de mort spirituelle, mais le diable aussi, il dit, conformément au prince de la puissance de l'air. Le diable est tellement présent dans toutes les sphères de la société qui nous entoure que la Bible dit qu'il est comme dans l'air. Il est le prince de l'air. Le diable travaille des heures supplémentaires, gratuites, pour nous garder loin de Dieu. Parce qu'il est ennemi de Dieu. Il sait la colère de Dieu qui va venir sur lui. Il veut que le maximum de personnes échappent à la grâce de Dieu comme lui. Et il a beaucoup de pouvoir. Au verset 3, plus loin, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Qu'est-ce qui nous destinait à la colère? C'est notre nature même. Est-ce que ça veut dire que la nature humaine est rebelle à Dieu, provoque la colère de Dieu? Oui, c'est ça que ça veut dire. Nous étions par notre nature même destinés à la colère. Parce qu'on parle souvent de dépravation totale. Dans notre volonté, dans notre cœur, il n'y a rien de bon. Dans Genèse 6, verset 5, je dis bien suivant le regard de Dieu. Dans Genèse 6, verset 5, avant d'envoyer le déluge, avant de lâcher sa colère et détruire la terre par les eaux, on dit dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Et quelqu'un peut dire, oui, mais on fait un peu de bien, on n'est pas uniquement porté vers le mal. Et la question que j'ai souvent entendu poser, c'est qui ici voudrait qu'on expose tout ce qu'il a pensé cette semaine et qu'on l'affiche ici? Tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a désiré dans son cœur, qui voudrait qu'on expose tout? Pas moi. Mais devant Dieu, tout est là. Devant Dieu, tout est là. Et par notre nature même, on ne peut pas entrer en communion avec lui. Parce que Dieu voit et Dieu est saint. Il ne peut pas entrer en communion avec nous. Il ne peut pas nous considérer. Nous sommes comme morts par notre nature propre. Et j'ai entendu quelqu'un dire un jour, les deux mots les plus merveilleux de la Bible quand ils sont mis ensemble, c'est « mais Dieu ». L'histoire aurait pu être, nous étions morts dans nos péchés et Dieu nous a abandonnés. Nous étions morts dans nos péchés et Dieu nous a punis avec ses ennemis, le diable et ses démons. Bien, nous étions morts dans nos péchés, Dieu nous a enterrés, a mis fin à notre existence. Mais la suite, c'est que Dieu nous a ramenés à la vie. Nous étions morts dans nos péchés, mais Dieu est riche en compassion. Une définition de la compassion que j'ai trouvée, c'est la capacité à être profondément touché par la souffrance de quelqu'un et à vouloir y répondre par un geste, une parole, une attitude bienveillante. Dieu est riche en compassion. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est compatissant pour quelqu'un? J'ai déjà vu, récemment j'étais au Togo avec des amis français qui étaient jamais allés en Afrique. On voyait des personnes dans une galère et puis il y avait des filles autour de nous qui pleuraient. Elles ressentaient de la compassion. Elles disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Imaginez la personne la plus compatissante que vous pouvez connaître. Dieu est l'être le plus compatissant du monde. Dieu est riche en compassion. Il n'y a aucun être qui peut avoir la compassion de Dieu. Nous étions morts, mais Dieu a eu pitié de nous. Dieu a vu les êtres misérables que nous étions, et surtout la fin qui nous était réservée. Il a eu pitié de nous. Peut-être vous connaissez l'épisode de Lazare, la résurrection de Lazare. On dit Jésus a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il a ressuscité. Il avait tous les pouvoirs et il a ressuscité. Mais Jésus a pleuré par pitié en voyant la mort qui dévaste les êtres humains. Et nous sommes dans une, nous vivons une sorte d'illusion. Il nous reste ici peut-être, je vous souhaite de vivre longtemps, hein, même s'il nous reste 100 ans à vivre, c'est rien comparé à l'éternité. Et nous on veut s'accrocher juste au petit bien qu'on veut avoir, au petit bonheur qu'on peut avoir sur cette terre. Mais Dieu a pitié de nous quand il voit notre course vaine. Il nous propose plus. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. La Bible dit « à cause du grand amour dont il nous a aimés ». L'amour que Dieu éprouve pour les hommes qui sont ses enfants est démesuré. Souvent, moi je ne me souviens pas d'une culture, on parle d'amour comme ça. Mais souvent quand je lis dans la parole de Dieu, des fois je suis gêné quand Dieu exprime son amour pour ses enfants. L'amour de Dieu est infini pour ses enfants. Et je pense que des fois, parce qu'on dit beaucoup, peut-être qu'on ne mesure pas. Je crois que l'une des choses que j'ai du mal à croire, c'est l'amour de Dieu. Que Dieu m'aime entièrement, parfaitement, alors qu'il me connaît. Dans Isaïe 43, les versets 3 à 4, il dit « En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. » Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Ça me met mal à l'aise. C'est quand je pense que je fais partie de ceux à qui Dieu dit cela. Dieu l'a prouvé parce qu'il a donné son propre fils. Par amour pour nous. Nous étions morts, loin de Dieu aussi loin qu'on peut l'être. Mais Dieu nous a tant aimés. Il a donné son propre fils, pour que son fils meure, pour que nous ayons la vie. Il dit, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est pas juste qu'il a annulé la mort et que maintenant nous pouvons vivre sur la terre indéfiniment. C'est que maintenant nous avons la vie avec Christ. Un jour on va vivre là où Jésus-Christ est, auprès de Dieu. C'est un amour de Dieu. Inexplicable. Dans l'économie humaine, ça n'existe pas. C'est-à-dire, tu es mon ennemi, tu m'as fait beaucoup de mal, tu as détruit tous mes biens, tu t'es moqué de moi, donc je vais t'élever à la place d'être comme mon propre fils. Chez moi, je vais te donner tous mes biens. Ça passe. Mais Dieu l'a fait pour ses enfants, à cause de sa compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire assis dans les lieux célestes? Nous sommes tous assis là. Mais souvent, quand la Bible parle de choses qui vont arriver comme si c'était déjà réalisé. C'est comme si tu dis j'ai été payé parce que le virement est fait, mais ce n'est pas encore dans ton compte. Donc nous serons assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Puis au verset 7, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Un mot, une phrase clé dans ce verset 7, afin de montrer dans les temps à venir. Frères et sœurs, le salut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ va plus loin que cette vie. Souvent, on pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre vie sur terre va aller mieux. Oui, je pense qu'il y a du bénéfice à être enfant de Dieu. Vaut mieux être enfant de Dieu dans cette vie que ne pas l'être. Et on a la paix de Dieu, on a sa joie. Mais on aura aussi des galères. Et on aura aussi des maladies. Et puis on va mourir. Tous les chrétiens sont morts dans l'histoire. Mais la résurrection que Dieu opère en nous, c'est pour faire connaître dans les temps à venir. Un peu comme avec le déluge, Dieu a vu l'iniquité qui était dans le monde. Il a dit, ok, je détruis tout, je recommence. Un jour va arriver, Dieu va dire, je détruis tout et je recommence. Et ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui l'ont déversé cet amour, ceux-là seront présents grâce et par eux, on verra la volonté de Dieu. Donc, nous étions morts. Dieu nous a ressuscités. Dieu nous a ramenés à la vie avec Christ. Et enfin, c'est par sa grâce qu'il a fait. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Quand on sera au ciel, et quand, enfin, ceux d'entre nous qui sont au ciel, j'espère, nous tous ici, quand on va se voir, on va se dire, mais pourquoi, quel est ton parcours, quel est ton CV, comment tu as fait pour entrer au ciel? Personne ne pourra dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou je suis né là, j'ai eu tel. On dira tous, parce que Jésus est mort pour moi. C'est pas la grâce. La grâce, c'est un don gratuit. Quelque chose que tu ne mérites pas et qu'on te donne gratuitement. C'est pas la grâce, par le moyen de la foi. C'est en croyant en Jésus, Jésus qui a donné sa vie pour nous, c'est en disant, Seigneur, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est le seul moyen d'avoir cette grâce. Et c'est un don de Dieu. Ça va? Et puis au verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a sauvés aussi pour son plaisir. J'ai une amie architecte, un jour je suis allé chez elle, elle avait une jolie table. On regardait tout ça, on se disait, mais comment ça tient en place? Elle avait, c'était un briquet comme ça. Et, mais bon, je ne pense pas qu'elle a fait pour ça, mais grâce à ça, on se disait, waouh, elle a un génie incroyable. Dieu nous a sauvés un peu de la même manière. Quand nous serons dans les cieux, dans les siècles à venir, on verra son génie, mais surtout, on verra la grandeur de la grâce de Dieu. On verra les ennemis de Dieu qu'il a pardonnés. On sait Saul de Tarse, devenu Paul. On verra les ennemis de Dieu qu'il a pardonnés. On verra les morts que Dieu a ressuscités. On verra les misérables que Dieu a visités, que Dieu a sauvés. Trois implications, comment pouvons-nous répondre à ce texte? La première chose que je nous suggère, c'est que nous devons reconnaître que ce que Dieu dit est vrai. Je suis convaincu que souvent, ce qui nous amène à l'erreur, c'est qu'on ne... On ne c'est pas juste que la Bible n'est pas claire, mais c'est le refus de le reconnaître. Je trouve que ça peut être des mots forts, parce qu'on peut se dire, et les autres, si on est mort, et les autres. Mais on doit reconnaître que ce que Dieu dit, nous étions morts spirituellement. Et tous ceux qui ne sont pas en Christ sont dans un état de mort spirituelle. Ils ne peuvent pas venir. Une deuxième indication, c'est que nous devons apprécier notre salut et bénir Dieu. Dieu nous a ramenés des morts. Dieu nous a sauvés de là où on ne pouvait pas nous se sauver nous-mêmes. Personne ne pouvait nous sauver. Dieu nous a aimés. Dieu a eu de la compassion, de la pitié pour nous. Et le troisième, c'est « et les autres ». La semaine passée, on voyait dans Éphésiens, dans le chapitre 1, que Dieu nous a choisis avant la création du monde pour être ses enfants. Ensuite, il nous a prédestinés dès notre naissance. Ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à devenir ses enfants. On peut se dire « et les autres », ceux qui ne croient pas encore. Je me suggère que ce qu'on peut faire, c'est prier pour ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Mais prier comme si on attendait un miracle. Ça dépend de Dieu. Ils sont dans un système et le diable aveugle leur intelligence pour qu'ils ne viennent pas à la lumière. Donc on peut prier comme si on priait pour que Dieu ressuscite un mort. Parce que c'est exactement ça. Venir à Dieu, c'est un miracle. Il y a des membres de ma famille depuis 20 ans. Et je ne vais pas m'arrêter tant que l'un de nous, justement. Parce que je ne sais pas ce que Dieu a fait. On doit prier, et sachant que ce n'est pas eux, c'est Dieu qui peut dire une parole, et les morts reviennent à la vie. Enfin, je nous laisse avec cette parole. La pleine démonstration du salut de Dieu, on la verra un jour. Comme Gaël disait la semaine passée, Dieu nous a fait connaître son mystère, c'est de réunir toutes choses sous l'autorité de Christ. Et un jour, on verra, parce que Dieu nous a invités à sa table. Je prie pour nous. notre Dieu, notre Père, nous ne comprendrons jamais pourquoi tu nous as sauvés. Père, mais nous voulons juste te dire merci. Père, merci parce que tu as eu pitié de nous. Merci parce que tu as vu que nous allions être séparés de toi pour l'éternité, dans les ténèbres, dans le regret. Et tu as eu pitié de nous. Et tu nous as sauvés selon ta bonté. Tu nous as aimés d'un amour que le langage humain ne pourrait pas décrire, l'intelligence humaine ne pourrait pas concevoir. Père, on te remercie. On veut t'exprimer notre reconnaissance. Et Père, je veux te supplier pour moi-même, pour mes frères et sœurs, que ton Saint-Esprit nous illumine, nous éclaire pour comprendre la profondeur de cet amour. Et Père, nous voulons te prier. Nous avons tous des membres de nos familles, des amis, des proches qui ne te connaissent pas encore. Père, on te supplie que tu nous aides à persévérer, à savoir que ce n'est pas eux qui peuvent venir à toi, mais c'est toi qui peux venir à eux. C'est toi qui peux faire tomber les écailles de leurs yeux, toutes les barrières qui les retiennent captifs du péché, du monde. Père, on veut te supplier que tu nous donnes la grâce de persévérer. Que tu nous aides, nous, à ne pas être distraits par les occupations, mais à être conscients que ceux qui sont autour de nous risquent leur vie, risquent leur éternité, s'ils ne sont pas en Christ. Père, on te supplie de bénir ton Église. Père, je veux te supplier, en particulier s'il y a des personnes dans cette pièce qui ne te connaissent pas encore, ô Père, que ton esprit touche leur cœur et leur fasse voir ta bonté, ton amour qui ont été manifestés en Jésus-Christ. Père, c'est au nom de ton Fils que nous te prions. Amen. Un autre moment de Sainte-Seine. Je vais lire dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 26, là où l'apôtre Paul nous rappelle l'institution de la scène. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je me souvenais cette semaine, dans le jardin de Gethsemane, il priait, il angoissait, il agonisait, il y avait des sueurs de sang. Il disait à Dieu son Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais on connaît la suite, la coupe ne s'est pas éloignée. S'il y avait un autre moyen de nous sauver, Dieu l'aurait trouvé. Il n'y avait pas d'autre moyen que de donner son propre Fils. Dans son sagesse infinie, son intelligence infinie, Dieu est créatif, il l'aurait trouvé. Mais si Jésus n'était pas mort, la justice ne serait pas accomplie. L'ascension que méritent nos péchés n'aurait pas été punie et la justice ne serait pas accomplie. Si Jésus n'était pas mort, l'amour de Dieu ne pourrait pas s'exprimer envers nous. Et dans 1 Corinthiens, on voit que c'est Jésus lui-même qui institue ce repas. Faites ceci en souvenir de moi. En prenant le pain et en prenant la coupe, on se souvient que Jésus est mort à notre place. Le pain représente son corps qui a été brisé. Le jus représente son sang qui a été versé, symbole d'une mort agonisante pour nos péchés, ce que nous méritions. Jésus a pris cette colère à notre place. Donc si nous avons mis notre foi en Jésus, il va nous inviter à nous lever pendant le chant, à venir prendre le pain et la coupe. Et pour ceux peut-être d'entre nous qui n'auront pas encore mis notre foi en Jésus, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu dit, venez à moi et je vous pardonnerai, comme Gaël disait tout à l'heure. Donc on va faire un chant pendant ce temps, je vais prendre des éléments et on va s'attendre. Après avoir remercié Dieu, il prit le pain, le rompit et dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Il dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.